Salut Jean-Baptiste.
Bonjour Marc.
Je suis ravi de te retrouver pour parler du homard qui est le roi des crustacés. C'est un gros morceau, il vient nous prendre plusieurs épisodes. Dans le dernier épisode, on avait vu avec toi à quel point c'est un marqueur social de pauvreté. Les détenus dans les prisons, ils râlaient parce qu'ils mangeaient trop de homard. Un petit peu comme les travailleurs, tu sais, le long de la Loire, là, on leur donnait trop de saumon. À une époque, ils s'en plaignaient, ils ont même fait la grève parce qu'ils mangeaient trop de saumon. Enfin, c'est drôle, les temps changent, évidemment. Alors, on a beaucoup parlé de ce statut social, tu as expliqué comment ça a changé et c'est devenu ce mets de choix hein, qui est très cher aujourd'hui. Moi, j'aimerais qu'on se repenche un peu sur un peu les aspects un peu plus biologiques de cette espèce. J'ai eu la surprise de découvrir, en creusant un peu, que le homard, bah, c'est un des plus gros crustacés du monde. Tu as dit qu'il y en avait qui pesaient parfois jusqu'à 20 kilos. J'ai vu qu'il avait des pinces qui étaient dissymétriques, qui n'étaient pas les
Ah,
mêmes.
oh, tout à fait.
Il y en a une qui s'appelle un marteau et l'autre qui s'appelle la cisaille. Il y en a une qui sert à broyer et l'autre qui sert à découper. Je ne sais pas si les gens le savaient, mais quelles sont les autres particularités de ces homards, mis à part qu'ils muent, tu sais, qui sont très faibles et qui deviennent tout mous, là?
Alors en fait, sur les pinces, tu as raison de le dire, en fait, c'est un crustacé décapode. Donc décapode, ça veut dire qu'il a 10 pinces. Donc 5 paires de 2 pinces. Tu as effectivement ces deux grosses premières pinces, donc la marteau et l'autre pour cisailler, mais tu as aussi deux fois deux paires de petites pinces. Et par contre, les deux toutes dernières, donc les deux complètement antérieures, ça cherche juste à marcher. Mais il a, en fait, finalement, il a six pinces. Donc les deux plus grosses, dissymétriques, et deux autres encore.
Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'ils mangent, les homards? Je vois qu'ils vivent au fond. Enfin, ils mangent des crabes, ils mangent ses cousins, les crabes, des mollusques, des oursins, des vers polychètes, des étoiles de mer et quelques poissons imprudents qui se seraient trop approchés de ses pinces. Voilà son menu. Je vois aussi qu'ils consomment des algues. Et comme je te le disais, j'aimerais que tu nous racontes un peu sa mue. Sa mue est célèbre.
Alors, la mue lui prend beaucoup d'énergie, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le homard, en fait, a cette particularité, c'est qu'il possède la jeunesse éternelle. Le homard, tout comme nous, possède une enzyme qui s'appelle télomérase, qui permet en fait de dupliquer les cellules et de les conserver toujours en bon état de fonctionnement. C'est-à-dire que nous, en tant qu'humains, on a cette enzyme qui va se développer dans le fœtus et quand on est jeune, mais après, petit à petit, ça va disparaître. Donc finalement, le homard, en fait, possède la jeunesse éternelle. Mais jeunesse éternelle ne veut pas dire vie éternelle. C'est-à-dire qu'effectivement, ça mue, en fait, au fur et à mesure des mues, ça va lui prendre de plus en plus d'énergie. Et il y a un moment, en fait, où sa carapace deviendra trop épaisse. Et il ne pourra plus, et malheureusement, on va dire, dans le cas où il n'a pas été pêché, où il n'a pas été mangé, et ben, il y a un moment, malheureusement, son corps restera enfermé dans sa carapace.
Je voudrais saluer un ami, Pierre Molot, avec lequel on a fait ces beaux épisodes de plancton au tout début de la création de Baleine sous Gravillon. Donc là encore, pour le trouver, c'est facile, hein. Il suffit de taper baleine et plancton dans n'importe quelle appli d'écoute. Vous trouverez ces épisodes avec Pierre Molot, qui m'avait raconté que, tu sais, le tout début de ce beau film, de ce beau doc de Jacques Perrin qui s'appelle Océan.
Ah, il y a un livre, oui, tout à fait.
Ça commence dans le noir, on a l'impression qu'il y a des étoiles qui s'allument, et en fait, ces étoiles sont des œufs de homard qui ont été sélectionnés par Pierre. Et Jacques Perrin avait chargé Pierre de cette séquence qui est mythique dans l'histoire du doc animalier. Tu sais, on dirait que ça se passe dans l'espace, et en fait, tu vois, c'est le macro et le micro, et en fait, c'est une super idée en fait.
Mais tout à fait, j'ai le livre d'ailleurs, il y a eu un très beau livre de photos Océan, et j'ai le livre chez moi, je l'ai compulsé avec avidité et intérêt.
Ce que nous avait dit Pierre aussi dans ces épisodes, c'est que les homards, qui sont ces six gros crustacés quand ils sont adultes, démarrent leur vie, comme beaucoup de poissons d'ailleurs, dans le plancton. C'est-à-dire qu'ils font, leurs larves font partie du plancton. Hein, c'est évident, mais en grandissant, bah, ils en sortent, c'est juste une catégorie différente. Je rappelle au passage que le plancton s'appelle comme ça, d'une racine grecque qui veut dire dériver. C'est-à-dire le plancton, à la base, ça veut juste dire ce qui dérive, ce qui ne choisit pas là où il va. Le homard et les poissons, ils choisissent et donc eux s'appellent le necton. Il y a deux grandes catégories. Dans l'eau, tu as le plancton et le necton. Je le rappelle juste au passage. Pour finir cet épisode, Jean-Baptiste, j'aimerais que tu nous fasses un petit comparatif entre la langoustine et le homard. Il y a une différence de sociabilité entre les
Ah
deux.
oui, tout à fait. Le homard est un crustacé absolument solitaire. Voilà, il vit dans un terrier seul.
Tu parles de poor lonesome lobster.
Exactement. C'est ce que j'appelle. Alors que la langoustine, en fait, on peut se trouver des filets de 100 crustacés. En fait, elles se tiennent par les pinces ou par les antennes, je sais plus trop. Mais elles se tiennent vraiment les unes après les autres.
Ça me fait penser aux éléphants, tu sais, qui se tiennent par la queue et la trompe, là.
Exactement.
Ouais.
Bah, la langoustine, c'est à peu près pareil. Je sais pas si tout le monde le sait, mais en fait, le homard est quasiment impossible à élever. Il y a deux raisons à ça. Premièrement, la croissance du homard est très 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 lente, donc c'est pas forcément rentable. Et surtout, en fait, le homard est cannibale. Et c'est pour ça que il y a un élastique. En fait, c'est effectivement pour protéger les humains, mais c'est aussi pour éviter que les homards dans le vivier se mangent entre eux, hein. C'est aussi simple que ça, quoi. Et d'ailleurs, on notera que tous les crustaticulteurs qui ont essayé de l'élever, en fait, ils retrouvaient partout l'inscription sibylline homard m'a tué. Voilà, homard m'a tué. Donc finalement, on peut pas l'élever.
Ouais, je précise que chaque été, les homards font des migrations pour finir cet épisode, pour trouver leur partenaire sexuel. Avec les périodes de mue, c'est le moment de leur vie où ils sont les plus vulnérables. Les pêcheurs le savent puisqu'ils posent leur casier sur ces corridors de migration. Et c'est le moment du pic de la pêche aux homards. Voilà, les pêcheurs, ils sont malins, hein, bien sûr. Mais il faut faire attention. Je rappelle que tu disais que notre homard européen, c'est deux espèces différentes,
Tout à
hein,
fait.
Homarus, Gammarus. Ses effectifs
En déclin.
sont en déclin. Et tu disais que le Homarus americanus, son cousin américain, eux, bizarrement, c'est le contraire.
Ils sont en progression, effectivement.
Comment on l'explique?
Déjà, il faut savoir que le homard, c'est presque aux États-Unis, enfin aux États-Unis, Canada, c'est assez récent. Et puis, quand même, le homard, le Gammarus, donc le breton, est quand même beaucoup plus recherché par les gastronomes. Hein. C'est quand même c'est le niveau supérieur. Hein. Gustativement parlant. Mais en tout cas, sur les deux, le poids moyen des deux homards a été divisé par deux en 2 siècles. Et en tout cas, puisque tu parlais effectivement de la reproduction des homards, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est vraiment la femelle qui met de la danse. Hein. Et on parlait
Oui.
de subtilité, et le critère principal de choix de madame, hein, madame qui fera le premier pas, c'est pas le plus gros, c'est pas le plus balèze, c'est pas le plus subtil, c'est le mâle qui aura le plus beau terrier. Voilà. Donc
Ouais.
on peut dire que.
C'est intéressant ce que tu dis. Pour finir cet épisode, encore une précision sur son âge, on n'en avait peut-être pas parlé. Je vois que le homard européen peut vivre vieux pour un crustacé, plus de 50 ans.
Alors,
Il est plus léger que son cousin américain. Il peut néanmoins atteindre une longueur maximale enregistrée de 1,26 m pour 20 kilos, c'est ce que tu disais, ce qui impliquerait un âge théorique de 190 ans,
Tout à fait.
parce qu'un homard prend 100 grammes par an. Voilà. Ils sont de plus en plus rares. Il n'y a pas que la pêche qui leur pose des soucis. Il y a aussi évidemment la pollution marine et les phénomènes de bioconcentration et de bioaccumulation. On pense aux métaux lourds et à tous ces polluants qui, chez ces êtres qui vivent longtemps, s'accumulent dans leur
Qui
organisme.
vivent longtemps, qui sont, on va dire, dans leur réseau trophique en haut de la chaîne alimentaire.
Ouais. Je recherchais le nom des larves. Tu sais, justement, planctonique, là, elles ont des jolis noms, les larves, mais je l'ai plus en tête. Je sais plus si c'est les naïades ou non.
Alors non, les
Non, non, c'est pour les
naïades.
libellules.
Ouais, tout à fait. Les naïades, c'est des libellules et.
Les crustacés passent par différents stades larvaires. Et les noms que j'ai retenus, c'est que le tout premier stade, en général, s'appelle Nauplius. C'est un joli nom. Et après, bon, il y a beaucoup de différences suivant les espèces, mais il y a notamment Zoé. Il y a un stade larvaire qui s'appelle Zoé, comme le prénom. C'est joli. Alors après, il y a différents noms. Hein. Je ne vais pas tous les dire, mais je voulais juste signaler cela. Voilà ce qu'on pouvait dire dans cet épisode sur le homard. Il y en aura d'autres. Je suis impatient de te retrouver pour un prochain épisode. D'ici là, prends soin de toi. Salut.
Salut Marc.
L'océan, c'est la vie. C'est-à-dire que notre vie est intimement liée à la vie de l'océan. Voilà, c'est ça, pour moi, la seule chose qui compte. Tout le reste est secondaire, tirer du pétrole, des trucs. Pourquoi faire? Pour augmenter de 5% la production. Rigolade!